Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Manuel Pénicaud. Bonsoir, bonjour. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CNRS et vous vous intéressez aux relations interreligieuses. Mais vous êtes aussi commissaire d'exposition en cette année particulière, 2022, l'année Massignon. Et vous êtes aussi compétent dans les lieux saints partagés. Vous venez de Grèce et vous allez partout en Europe pour ces lieux de pèlerinage. Nous étions rencontrés lors de marches Compostelle-Cordoue et puis aussi au Vieux Marché. C'est tout un programme. Notre émission est bien trop courte pour évoquer tous les livres, dont votre thèse sur Massignon, mais surtout votre dernier livre qui a eu deux prix. C'est Louis Massignon, le catholique musulman. Alors, je sens dans notre radio chrétienne œcuménique ou interreligieuse que certaines dents vont grincer parce que le syncrétisme, mais nous sommes dans le domaine de la science. Je suis un sociologue agnostique dans mon métier et vous avez travaillé sur l'œuvre de Louis Massignon et entre autres sa conversion.
Bonjour. En effet, donc je peux d'ores et déjà aussi désamorcer ce titre, peut-être qui peut, comme vous dites, faire réagir. Mais figurez-vous que c'est en fait le pape Pie XI en personne qui, en 1934, a affublé l'islamologue catholique Louis Massignon, hein, qui est très catholique, de ce surnom de catholique musulman, disant que vous êtes devenu musulman à force de les aimer. Donc c'est la plus haute autorité de l'Église catholique qui a surnommé Louis Massignon de ce qualificatif et qui a été choisi d'ailleurs par mon éditeur Bayard, que je remercie, en pensant que c'était un titre qui justement ferait réagir. Mais il ne s'agit surtout pas ni de syncrétisme ni de faire croire que Louis Massignon se serait converti à un moment ou à un autre à l'islam. Parfois il a cette réputation qui lui est associée, mais en fait il n'en est rien. Et je pourrais raconter d'ailleurs sa conversion au catholicisme qui, comme je le dis, s'est déroulée dans le miroir de l'islam.
Oui, mais alors la notion de conversion aussitôt va poser d'autres questions lorsque l'on évoque des associations comme le groupe d'amitié islamo-chrétien ou bien la mission Angelus ou bien les évêques de France hein, dans leur conférence et dans la lettre du service national pour les relations avec les musulmans. Bon, c'est tout un programme, mais en fait, pour nos auditeurs qui peut-être font la vaisselle ou sont dans leur voiture, nous sommes dans le domaine de la recherche scientifique, nous sommes dans le domaine de la raison. Je vous demanderai peut-être, Manuel, votre famille, mais d'abord, je devrais dire qu'il y a eu deux prix, votre livre. Hein. C'est après votre thèse, il y a eu donc ce Louis Massignon, le catholique musulman, je le répète, chez Bayard, a eu le prix du jury de l'œuvre d'Orient. Nous avions le mois dernier une conférence sur le Liban et nous avions parlé avec le responsable des chrétiens d'Orient et Monseigneur Gollnisch de ces tensions, mais de ces relations interreligieuses entre les Coptes, les Syriaques, les chrétiens maronites ou orthodoxes. Et nous sommes dans une situation actuelle de grande tension au niveau international. Votre livre apporte un peu, je crois, de paix. Et le deuxième prix que vous avez eu, c'est le prix Lyautey de l'Académie.
Oui, c'est l'Académie des sciences Outre-mer. D'ailleurs, c'était l'ancienne Académie des sciences coloniales à laquelle Louis Massignon appartenait et dont il avait claqué la porte, je crois, en 1949, lorsque Charles de Foucault était accusé d'être un saint de la colonisation. Et ça, Louis Massignon ne pouvait pas le supporter parce qu'il était aussi disciple de Charles de Foucault. Il était même son successeur désigné par l'ermite de Taman Rasset. Et donc, il avait claqué la porte de cette prestigieuse académie parisienne. Et donc, le sort veut que mon livre ait reçu un prix, le prix 2021 de Lyautey, effectivement, de cette vénérable académie. Mais j'aimerais, je crois, en quelques mots, si je puis essayer de montrer la complexité de ce personnage qui, outre sa dimension interspirituelle, était d'abord un professeur au Collège de France, qui a vraiment une assise académique très forte. Il a été titulaire d'une chaire au Collège de France pendant une trentaine d'années. Il a beaucoup compté pour. Il a dédié sa vie même à la compréhension et à la connaissance scientifique de l'islam. Soutenant en 1922, donc c'est d'ailleurs en cela que 2022 est une année massignonienne, il a soutenu une thèse tout à fait remarquable en 1922 qu'il a appelée la passion d'Al-Hallaj. Alors Hallaj, c'est un saint musulman, mystique soufi, qui a été exécuté en 922 de notre ère. Alors c'était le 26 mars 922, c'était finalement il y a quelques jours, nous avons fêté les 1100 ans de cette exécution. Et il a d'ailleurs été exécuté pour avoir dit « je suis la vérité ». Donc quelque chose d'inacceptable dans le monde orthodoxe islamique, mais là c'était un mystique qui a poussé à son comble la connaissance divine. Et Louis Massignon avait été très tôt lui-même fasciné par ce personnage en pensant qu'il s'était même converti, qu'il était mort chrétien, puisqu'il y a un verset, un poème de Hallaj qui dit qu'il est mort sur la croix.
Et Jésus avait dit « je suis la vérité et la vie ». Donc il y aurait comme des constances ou des parallélismes. Il était militaire, il était expert en diplomatie, et puis il a fait de la prison, Massignon.
Il a une vie
extraordinaire, un roman.
C'est une vie assez romanesque, et c'est vrai que la biographie donc, essaye de retracer un peu ces différentes facettes, toutes indissociables les unes les autres, mais il y a évidemment le jeune homme, qui d'ailleurs est un jeune homme qui traverse une période d'incroyance, d'où sa reconversion en 1908, comme je l'ai dit, en Mésopotamie. Il va être aussi enrôlé dans la Première Guerre mondiale. Il va être d'ailleurs un rival de Laurence d'Arabie, que tout le monde connaît par le film de 1962, bien connu. Donc il est, lui, l'agent français, disons, rival de Laurence dans la prise de Jérusalem en 1917. Il va être après titulaire au Collège de France. Il va être aussi un très grand arabisant, donc spécialiste du monde musulman. Il va être aussi un envoyé des politiques, justement de Lyoté ou même du général de Gaulle, qui vont l'envoyer en mission diverses et variées autour du monde pour une forme de diplomatie, de soft power, si vous voulez, de diplomatie à la fois intellectuelle, académique. Et par exemple, en 1945, le général de Gaulle l'envoie en mission jusqu'en Inde pour renouer les relations diplomatiques avec tous les pays du Moyen-Orient. Et il a une dimension aussi d'acteur, de catholique engagé, qui est très très importante. Qui, notamment avec François Mauriac, a fondé des comités aussi sous la 4e République, des comités qui ont pris position pour les décolonisations. Et évidemment, peut-être la dernière facette qui est la plus importante, c'est à la fois celle du pèlerin et du mystique. C'est-à-dire que Louis Massignon, malgré toutes ses épaisseurs et ses différentes facettes, est avant tout un homme d'une foi ardente, habitée, brûlante, qui le tiraille et le torture aussi sans doute, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, et qui est fasciné par cette altérité, y compris de l'islam, et donc il est, pour ainsi dire, amoureux de l'islam.
En même temps, marié et prêtre de rite oriental.
Alors, c'est sa spécificité.
Encore d'autres paradoxes.
Alors, une autre spécificité de l'année massignonienne, c'est que, comme vous savez, Charles de Foucault va être canonisé ces jours-ci, et Louis Massignon était son exécuteur testamentaire. Foucault l'avait désigné comme son successeur en lui disant « vous prendrez ma suite, vous vivrez avec moi, vous prendrez ma suite en devenant prêtre aux yeux de Dieu ». Louis Massignon va choisir une carrière universitaire, mais en 1950, sur dérogation du pape, il va avoir l'autorisation de changer de rite, du rite latin au rite melkite de langue arabe, et va être ordonné prêtre alors qu'il est déjà marié et qu'il a des enfants. Et donc c'est une ordination qui va d'ailleurs faire beaucoup jaser dans les milieux ecclésiastiques du Vatican à Paris. Par exemple, Paul Claudel, son grand ami, va être très jaloux de cette ordination. Et d'ailleurs, ça va être la fin de leur relation. Et il va créer ce pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants en Bretagne pour favoriser la réconciliation abrahamique des enfants d'Abraham. Et nous allons en reparler.
Oui, d'autant plus qu'à la fois nous allons évoquer Bérangère Massignon, qui a des responsabilités au niveau européen et qui a fait un travail avec vous-même, et puis également la sourate de Sept Dormants dans le Coran, puisqu'il y a des éléments intéressants. Eh bien, écoutez, écoutons plutôt le morceau de musique que vous nous avez apporté et qui est celui de votre papa, Éric Pénicaud, qui est compositeur, qui est même ermite compositeur. Et le morceau s'appelle, vous allez nous le commenter, « Les derviches tourneurs ».
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Manoël Pénicaud, merci d'être venu nous parler de vos travaux. Vous êtes anthropologue, spécialiste des relations interreligieuses et entre autres de Louis Massignon, puisque c'est l'année 2022, l'année massignonnée, qui va évoquer cette figure que nous venons d'évoquer brièvement, hein, du professeur au Collège de France, de l'islamologue, du pèlerin inlassable et inclassable. Cette musique, donc, c'est votre papa qui l'a composée. Et vous êtes né dans une famille... vous me disiez catholique, mais sans plus. Vous êtes scientifique d'abord.
Non, je ne crois pas être né dans une famille catholique. Je suis plutôt né dans une famille de musiciens plutôt, où la musique étant sacrée, mais sans coloration confessionnelle particulière. Et après coup, beaucoup plus récemment, mon père a refait un travail, disons, une reconversion aussi, mais ça le regarde, vers le christianisme. Mais sa musique est habitée, de toute façon, était habitée bien antérieurement. Et je suis un peu né je suis tombé dans cette marmite quand j'étais petit, en tout cas, de cette musique que je suis content d'avoir partagée avec les auditeurs.
La mystique des derviches tourneurs, c'est voilà, la Turquie.
Tout à fait. Donc Rumi, le fondateur des derviches, était un mystique persan du Moyen-Âge, mais avec une grande ouverture interspirituelle. Et abrahamique aussi, donc Louis Massignon, pour revenir à notre figure qui nous rassemble, a beaucoup aussi étudié la poésie de Rumi, comme d'Allah, dont j'ai parlé, mais qui avait une ouverture. D'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante qui dit qu'aux obsèques de Rumi, à Konya, donc en Anatolie, qui était l'ancien iconium d'ailleurs, hein, de la Bible aussi, on raconte que pendant ses obsèques, les musulmans disaient Rumi, c'est notre maître, évidemment. Mais les musulmans, les chrétiens accompagnaient le convoi en disant non, il était chrétien. Et les juifs disaient non, il était juif. Donc il y avait une forme, vous voyez, de... Alors, ce n'était pas dans la confusion, là, c'est plus de l'anecdote, mais ça montre aussi toute une imbrication, une hybridité, voire une symbiose qui a pu exister dans quelques époques.
Vous parlez de l'islam, mais il y a très longtemps. Hein. En même temps, nous savons aussi, pour avoir marché sur les traces de Compostelle Cordoue, du Cheikh Ben Tounes, dont nous avons ici accueilli la fille et qui, chaque année, coordonne cette journée internationale du vivre ensemble en paix, la JVEP. Et lorsque Sophia Bentounès est venue ici, elle nous parlait justement de cette mystique au-delà de toute appartenance confessionnelle. Vous êtes un scientifique, donc vous abordez des choses du point de vue des sources, du point de vue des témoignages et aussi sans doute à travers ces villes que l'on appelle les villes saintes.
Oui, alors, en tant qu'anthropologue, en fait, à la différence des historiens qui travaillent sur des sources ou des documents ou même des archéologues à travers des vestiges du passé, l'anthropologue s'intéresse beaucoup plus aux pratiques et aux vécus. En fait, hein, aux pratiques religieuses, au vécu religieux qui peut parfois aussi dérouter ou dénoter par rapport aux orthodoxies, aux dogmes. Parce que ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Les gens, souvent aussi, bricolent leur propre identité religieuse, empruntent des éléments ici ou là et franchissent beaucoup plus souvent qu'on ne croit les frontières religieuses. Et c'est ce qu'on appelle des lieux saints partagés, c'est-à-dire des sanctuaires visités par des fidèles de religions différentes. Donc ça, c'était ma casquette à la fois de... Je travaille sur ces sujets-là en tant qu'anthropologue, mais aussi de commissaire d'exposition. Ça a donné lieu à une grande exposition qui voyage depuis plusieurs années, où on montre, au-delà, heureusement, de Jérusalem, qu'il y a de très nombreux cas autour de la Méditerranée et en Europe de sanctuaires, parfois très mineurs, très petits, pas connus, mais qui sont fréquentés par d'autres religieux, des gens d'une altérité religieuse, qui viennent y chercher une grâce, une bénédiction ou une baraka, comme on dit en arabe. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai travaillé sur ce pèlerinage des Sept Dormants en Bretagne, où nous nous sommes rencontrés en 2018, qui, pour retomber encore une fois sur mes pieds, a été initié par Louis Massignon en 1954 au nom des Sept Dormants d'Éphèse.
Oui, mais on peut aboutir aussi à des querelles, non seulement d'interprétation, mais à des querelles dans les représentations, avec volonté de détruire des traces des saints de certains courants, qu'ils soient réformés, protestants, ou qu'ils soient de tendance wahhabite. Lorsque nous parlons d'islam, vous et moi, nous savons qu'il y a bien des nuances, bien des facettes des confessions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Et lorsqu'on parle des parcours de vie, il y a bien des ruptures, il y a bien des pratiques et des vécus qui montrent des fractures et des trahisons. Alors, rappelez-nous pour vous la laïcité, puisque vous travaillez sur ces questions. Nous sommes en France, vous revenez de Grèce, nous parlions de la religion sur la carte d'identité, ce qui n'est pas le cas ni au Maroc, ni en Égypte, ni ailleurs. Et donc, cette laïcité, c'est pour vous d'avoir ou de ne pas avoir de religion, de pouvoir changer de religion.
C'est un vaste sujet, mais moi...
Vous êtes un scientifique, donc plus distant par rapport à cette querelle sociologique ou juridique.
Moi, par exemple, je n'affiche jamais ma vie intérieure. Je n'ai pas vraiment le besoin de l'afficher ou de la partager. Mais je pense que c'est évidemment, en tout cas pour la France, heureusement que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire.
Et en quoi ? Puisqu'il y a des incroyants qui sont des profondément spirituels ou mystiques.
Oui, la spiritualité n'est pas l'apanage des seules religions. En fait, on parlait de musique tout à l'heure. Pour moi, la musique, par exemple, est un chemin d'accès privilégié, peut-être au sacré ou à la spiritualité, sans forcément avoir d'identité stricte. En tout cas, ce qui, je trouve, peut être parfois problématique, c'est plutôt l'hostilité qui va parfois naître envers l'altérité religieuse, alors que le message, on va dire, de la plupart des courants religieux est plutôt celui de la fraternité et de la concorde.
La fraternité que le pape François a évoquée avec le grand imam Ahmad al-Tahib, déjà en 2019. Et pourquoi Massignon s'est-il converti et à quoi ?
Alors Louis Massignon était un croyant à l'âge de 20 ans, en 1900. Il rencontre Huysmans, d'ailleurs un autre grand écrivain qui lui était, comme vous savez, un converti au catholicisme, et qui va semer une petite graine sans doute, qui va pousser quelques années plus tard. En 1908, il est en Mésopotamie, et alors qu'on aurait pu penser qu'il allait se convertir à l'islam, parce que tout l'appelait finalement à ce retour à Dieu, il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, se reconvertir au catholicisme, à la foi de son enfance, dans le miroir de l'islam. Disons que c'est la foi des musulmans qui va irriguer son retour à Dieu.
Vous parlez d'une approche intérioriste et d'un décentrement méthodologique dans sa recherche.
Oui, ça c'est vraiment aussi une méthode, même scientifique, ou qu'il va favoriser ou qu'il va développer. Mais on voit vraiment comment le miroir ou l'altérité va compter dans son processus de cheminement spirituel aussi. Et donc, c'est en 1908, il est prisonnier sur un bateau ottoman. Il se croit condamné à mort. Et là, il va avoir un choc mystique très fort qu'il va appeler la visitation de l'étranger, dans laquelle il va avoir une forme de d'éclair qui va le convertir. Ou d'ailleurs, il a l'impression que Hallaj, donc même le saint musulman dont j'ai parlé, ou Foucault même, qui est toujours vivant à cette époque-là, est là pour accompagner, comme un adjuvant, pour accompagner son retour en Dieu.
Ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas le mythe, parce que dans le Coran comme dans la Bible, c'est celui qui est l'intermédiaire entre la divinité et l'individu qui est appelé à une mission.
Voilà, là, il n'y a pas de figure angélique, mais c'est précisément ces figures qui lui sont proches, personnelles. Donc il y a Hallaj, il y a Foucault, comme je l'ai dit, et qui viennent l'accompagner. Et d'ailleurs, il rentre à Bagdad, il est donné pour mort, hospitalisé. On pense qu'il va passer l'arme à gauche, entre guillemets. Et finalement, il revient, et là, il est transfiguré, peut-être, ou transformé. Il va rentrer en France et du coup, changer complètement de vie.
Et c'est là où on pourrait lire ce texte, mais malheureusement, notre dialogue est déjà presque fini. Vous aviez préparé, vous pouvez dire à quelle page de votre livre il y est.
Oui, mais là, c'était j'avais préparé, mais si les auditeurs sont intéressés, la visitation de l'étranger, qui est un texte majeur de sa conversion, mais vous pourriez le retrouver sur, je voulais en parler, sur un nouveau site internet que nous avons lancé à l'automne dernier avec Bérangère Massignon, qui est en fait la petite fille de Louis Massignon. Donc ce site s'appelle louismassignon.fr, et dans laquelle il y a de nombreuses contributions qui abordent notamment ces questions de conversion, aussi des figures. J'ai parlé de Laurence d'Arabie, de Gandhi, qui est une figure que Louis Massignon a connue aussi, de Lyoté, enfin tous les noms que j'ai déjà prononcés, Huysmans, Claudel, tous ces gens-là sont bien présentés dans ce site. Et vraiment, pour les auditeurs, c'est une mine d'or pour aller écouter aussi des extraits de radiophoniques, des extraits de l'INA, des citations.
Des conférences comme celle du professeur Perennes, qui est dominicain, dans le cadre d'une séance de la Fondation des anciens ou anciennes étudiantes des amis de la faculté de théologie. Mais vous avez aussi sur le site des liens avec l'Institut du monde arabe ou avec ces expositions sur les villes saintes.
Tout à fait. En fait, Louis Massignon, c'est quelqu'un qui est mort il y a 60 ans, donc nous fêtons ces 60 ans quelque part de sa disparition. Mais c'est quelqu'un qui continue d'irriguer la vie intellectuelle et peut-être spirituelle française, puisqu'il y a chaque année de nouveaux livres, de nouveaux ouvrages, de nouvelles conférences, de nouvelles publications. Donc c'est quelqu'un qui génère une actualité sans cesse renouvelée et dont ce site se fait l'écho. Donc si vous voulez savoir, il suffit d'aller visiter et vous saurez tout ce qui se passe. Et beaucoup de nouvelles choses aussi vont voir le jour dans les mois qui viennent.
C'est aussi la conférence que vous allez donner à l'Institut catholique de Toulouse. Mais ça, c'était le mois dernier, puisque nous sommes en différé. Je voudrais évoquer aussi qu'il y a une semaine nationale des rencontres islamo-chrétiennes qui y aura très prochainement. Nous en reparlerons dans le cadre du Centre confessionnelle de lutte contre le racisme et la xénophobie, et puis d'autres associations sur Toulouse, comme la Journée internationale du vivre en paix. Et j'ai devant les yeux un flyer. Les groupes toulousains invitent à un temps de convivialité et de dialogue, chrétiens et musulmans ensemble, bâtisseurs de paix, ou bien un temps de silence et de recueillement en ces temps si troubles où chacun cherche cette paix. Merci, Manuel, d'être venu nous parler de votre passion. J'espère qu'elle ne sera pas comme celle de Al-Hajj qui va vous écarteler, mais au contraire, vous entraîner dans cette sainte laïcité qui est celle de la France. Merci, Manuel.
Merci beaucoup.
Merci à Christophe pour la technique.